Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le savant et le politique réunit deux conférences de Max Weber, prononcées à Munich en 1917 et 1919, dans le contexte troublé de la fin de la Première Guerre mondiale et des transformations allemandes. Ces textes, initialement consacrés à la vocation scientifique et à la vocation politique, sont devenus des références majeures de la sociologie et de la théorie politique. Weber ne livre ni un manuel de carrière ni un programme partisan. Il examine les conditions concrètes, les exigences morales et les tensions propres à deux activités centrales des sociétés modernes. Le savant travaille dans un univers de spécialisation, de discussion critique et de résultats nécessairement provisoires. Le politique agit au contraire dans un monde de pouvoir, de conflits de valeurs et de conséquences parfois irréversibles. La force du livre tient à cette comparaison rigoureuse entre métier et vocation. Elle éclaire la rationalisation moderne, la place des valeurs dans la connaissance et la responsabilité attachée à la décision publique, sans promettre de résoudre définitivement ces conflits. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la vocation savante face à la spécialisation et au progrès sans fin dans la conférence consacrée aux savants. Weber décrit une science moderne dominée par la spécialisation. Le chercheur ne peut plus prétendre embrasser seul l'ensemble du savoir. Il doit accepter de contribuer à un domaine limité, avec des méthodes et des problèmes précis. Cette restriction n'est pas seulement institutionnelle, elle définit une discipline intellectuelle. Une contribution scientifique vaut par sa capacité à être discutée, vérifiée et éventuellement dépassée. Le progrès de la connaissance implique donc une forme de renoncement personnel. Le savant sérieux sait que son travail peut perdre sa centralité à mesure que d'autres recherches avancent. Weber oppose ainsi la recherche à l'idée d'une œuvre définitive procurant un sens absolu. La science produit des explications, des outils et une plus grande maîtrise technique du monde, mais elle ne tranche pas à elle seule les fins ultimes que les individus doivent choisir. Cette analyse garde une portée concrète pour l'université et la recherche. Elle rappelle que la compétence dépend d'un effort soutenu, que l'originalité ne dispense pas de la méthode et que le progrès collectif repose sur la révision permanente des résultats. La vocation savante associe donc passion du problème, rigueur du travail et lucidité sur le caractère provisoire de toute découverte. Deuxièmement, la neutralité axiologique comme règle de travail et non comme absence de valeur. La réflexion de Weber sur la neutralité axiologique est souvent réduite à une exigence impossible d'objectivité totale. Son propos est plus précis. Le savant peut avoir des convictions morales, religieuses ou politiques, et le choix même d'un objet de recherche dépend souvent de ce qui paraît important à une époque. Mais, lorsqu'il analyse son objet ou enseigne, il ne doit pas présenter ses préférences comme des conclusions scientifiquement démontrées. Il doit distinguer les faits établis, les relations causales, les conséquences prévisibles et les jugements portant sur ce qui est désirable. Cette séparation protège la discussion rationnelle. Elle permet de confronter des diagnostics sans obliger les participants à adhérer à une même vision du monde. Elle interdit également au professeur de transformer l'autorité liée à sa fonction en instrument de conversion politique. Weber ne soutient donc pas que la science est extérieure à toute valeur. Il refuse qu'elle usurpe le pouvoir de décider des valeurs ultimes. La règle a une implication durable pour les sciences sociales, expliciter ses présupposés, justifier ses méthodes et ne pas masquer une prescription sous le vocabulaire de l'expertise. La neutralité axiologique est ainsi moins une indifférence qu'une éthique de la clarification et de la responsabilité intellectuelle. Troisièmement, le désenchantement du monde et les limites existentielles de la science. Weber inscrit la vocation scientifique dans un processus plus vaste de rationalisation et d'intellectualisation. Les sociétés modernes tendent à expliquer et organiser davantage les phénomènes par le calcul, la technique, l'administration et la prévisibilité. Ils désignent cette évolution par l'idée de désenchantement du monde. Elle ne signifie pas que toute croyance disparaît, mais que l'on suppose de plus en plus qu'un événement peut, au moins en principe, faire l'objet d'une explication ou d'une maîtrise technique. Cette dynamique augmente la puissance pratique des sociétés, sans fournir pour autant une réponse au sens de l'existence. La science peut indiquer quels moyens sont adéquats à une fin et quelles conséquences peuvent résulter d'une action. Elle ne peut démontrer quelle fin mérite d'être choisie lorsque plusieurs valeurs entrent en conflit. Weber conteste ainsi les promesses d'une science qui remplacerait la religion, la philosophie morale ou la décision politique. Cette limite ne dévalorise pas le savoir scientifique, elle en définit la portée propre. Comprendre cette distinction évite deux erreurs opposées: attendre de la connaissance qu'elle fournisse une morale complète, ou rejeter la connaissance parce qu'elle ne délivre pas de certitude existentielle. Le texte invite plutôt à reconnaître la pluralité irréductible des sphères de valeur dans la modernité. Quatrièmement, politique. pouvoir et monopole de la violence physique légitime dans sa conférence sur la politique. Weber propose une définition devenue classique de l'État moderne, une communauté humaine qui revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime sur un territoire. Donné, cette formule ne glorifie pas la violence et ne réduit pas toute politique à la brutalité. Elle identifie le moyen spécifique auquel l'État peut recourir en dernier ressort et souligne que son usage doit être reconnu comme légitime pour être durable. La politique concerne alors la direction ou l'influence sur la direction de cette organisation de pouvoir. Weber oblige ainsi à considérer la politique au-delà des seules déclarations de principe. Gouverner suppose des institutions, des ressources administratives, des rapports de force et la capacité de prendre des décisions effectives. Cette approche explique pourquoi la politique ne peut être assimilée à la pureté morale individuelle. Toute action publique engage des effets sur des groupes opposés, mobilise des moyens imparfaits et peut produire des résultats non voulus. En reliant l'État à la légitimité plutôt qu'à la force brute, Weber ouvre aussi la voie à l'analyse des fondements de l'obéissance. Le lecteur comprend que l'autorité politique dépend à la fois de l'organisation matérielle du pouvoir et des croyances qui rendent son exercice acceptable aux yeux des gouvernés. En dernier lieu, éthique de la conviction et éthique de la responsabilité dans la décision publique. La distinction entre éthique de la conviction et éthique de la responsabilité constitue le point le plus discuté de la conférence politique. L'éthique de la conviction conduit l'acteur à rester fidèle à un principe et à juger d'abord la rectitude de son intention. L'éthique de la responsabilité l'oblige à prendre en compte les conséquences prévisibles de ses actes et à répondre de l'usage des moyens employés. Weber ne présente pas ces deux orientations comme deux doctrines que l'on pourrait séparer mécaniquement. Une politique sans conviction manque de direction et de sens. Mais une politique qui s'exonère de ses effets au nom de la pureté de ses fins peut devenir irresponsable. La difficulté propre aux politiques consiste à tenir ensemble une orientation forte et l'examen lucide des conséquences. Dans un univers où les valeurs s'affrontent et où les résultats demeurent incertains. Weber associe cette tâche à des qualités exigeantes, passion pour une cause, sens de la responsabilité et jugement proportionné, qu'il appelle le coup d'œil. Sa distinction reste utile pour analyser les débats publics, elle invite à demander non seulement quelle valeur une mesure défend, mais aussi quel coût, quels risques et quelles conséquences elle rend probable. Elle refuse autant le cynisme gestionnaire que l'absolutisme moral. En conclusion, le savant et le politique s'adressent particulièrement aux étudiants en sociologie, philosophie, histoire des idées et sciences politiques. Mais il reste précieux pour toute personne qui veut comprendre les exigences distinctes de l'expertise et de l'action publique. Sa lecture demande une attention réelle, car Weber condense dans deux conférences des problèmes institutionnels, éthiques et intellectuels d'une grande ampleur. En échange, le livre fournit des repères durables pour évaluer une parole savante, le rôle d'un enseignant, la portée d'une expertise ou la responsabilité d'un dirigeant. Il aide notamment à distinguer l'analyse des faits, la défense des valeurs et la décision sous contrainte, trois opérations fréquemment confondues dans les débats contemporains. Par rapport à des ouvrages de théorie politique plus normatifs, Weber ne dessine pas le modèle d'un régime idéal ni le portrait d'un chef providentiel. Par rapport à des textes sur la méthode scientifique, il ne limite pas non plus la science à un ensemble de procédures. Il met en regard deux vocations, leurs conditions sociales concrètes et leurs limites morales. Cette articulation entre sociologie du pouvoir, réflexion sur la connaissance et éthique des conséquences explique son statut de classique. Le livre se distingue surtout par son refus des solutions confortables, la science ne délivre pas les valeurs ultimes. Et la politique ne permet pas d'agir sans assumer les effets de ses choix. Cette lucidité en fait une lecture encore féconde. Si vous souhaitez soutenir Max Weber, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.